Voilà, je crois que nous arrivons à la fin de notre série, le vocabulaire chrétien. Et à partir de mardi prochain, nous commençons une autre série intitulée Béréen l'explorateur. Donc nous allons explorer la Bible. Et dans la Bible, il y a des choses qu'on n'a pas l'habitude, dont on n'a pas l'habitude de discuter, ou bien dont on ne parle pas. Donc nous, on va faire un travail d'explorer ces choses-là parce que nous nous souvenons de la parole de notre Seigneur dans Matthieu 4, 4. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Donc il ne faut pas qu'on néglige certains passages. Tous les passages, toutes les histoires qu'il y a dans la Bible sont très importantes. Donc la série commencera à partir de mardi prochain. Donc en résumé, c'est des versets, des passages bibliques qu'on n'a pas l'habitude de lire, qui contiennent des révélations sur notre foi chrétienne. Donc là, on est sur la lettre S, et on avait parlé déjà du séjour des morts. Donc là, on va parler du mot « Seigneur ». Donc le mot « Seigneur » veut dire « Maître », ça veut dire aussi « Père ». Et quand on dit « Le Seigneur », là, on veut dire Dieu lui-même, donc c'est lui qui est le Seigneur. Mais en Israël, même aujourd'hui, donc quand on dit Adoni, donc puisque le Seigneur dans la Bible, c'est Adonai, mais quand on dit en Israël Adoni, ça veut dire Monsieur. Voilà, donc Monsieur, c'est Adoni aussi. Et dans d'autres langues aussi, notamment en Afrique, le mot Seigneur, c'est le même mot aussi que Monsieur. Donc c'est... On peut l'employer par respect, mais quand c'est avec le, c'est seulement Dieu lui-même. Ça veut dire maître. Ça veut dire maître, ça veut dire chef, quelqu'un de qui on dépend. Il faut savoir que c'est pourquoi plus tard, les gens qui avaient une propriété, les gens avaient des grands châteaux et les terres autour du château étaient à eux. Il y avait des paysans qui cultivaient. Et donc ces gens-là, on les appelait des seigneurs. Et la protection de ces paysans dépendait de ce monsieur qui était le chef du château. Donc le seigneur, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de terres, un château d'où il pouvait protéger les autres, les paysans, les gens qui entouraient. Et ces gens-là dépendaient de lui pour leur protection. Et pour beaucoup d'autres choses. Bon, c'était ça, c'était leur Seigneur, leur Maître. Et en parlant du mot Seigneur, nous nous souvenons de la fameuse phrase du Seigneur dans Matthieu 7. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc le Seigneur nous fait observer par là que dans le mot Seigneur, quand on prononce le mot Seigneur, il faut comprendre le sens. Ça veut dire maître, chef, personne de qui dépend ma vie. Donc quand on prononce ça, il faut que ça soit vraiment dans cette attitude là où le Seigneur est le chef, c'est lui qui commande. C'est pourquoi il dit, beaucoup diront Seigneur, Seigneur, mais en réalité ils ne font pas ma volonté, je ne suis pas leur maître. C'est leur raisonnement qu'ils suivent. Donc chacun doit s'examiner quand il prononce ce mot là Seigneur. Est-ce que c'est vraiment Jésus qui est le Seigneur? Est-ce que c'est lui vraiment qui est le chef? Et si c'est le cas, ben on retrouve Jean 14, 21. Celui qui m'aime, c'est celui qui pratique mes commandements. Donc forcément, la personne pensera à être obéissante aux commandements du Seigneur et à sa volonté, hein, qui peut s'exprimer par son esprit aussi. La volonté de Dieu s'exprime aussi par son esprit, dans des cas, dans des situations qui ne sont pas forcément dans la Bible, dans les situations de la vie de tous les jours, le Seigneur aussi s'exprime. Et on doit être obéissant. Quand, par exemple, le Seigneur peut nous dire « demande pardon », ce n'est pas un verset qui est dans la Bible. Mais, donc, on doit savoir obéir. Le Seigneur peut nous demander aussi de nous taire, tais-toi. Donc, dans une situation, donc, il faut apprendre à obéir au Saint-Esprit. Donc, c'est pourquoi il dit « ceux qui me disent Seigneur, Seigneur ». Donc, il faut qu'il y ait un poids dans ce mot-là, « Seigneur ». Donc, quand on dit « Seigneur », on accepte vraiment que Jésus est le Maître, que ce ne soit pas juste une phrase. Et c'est pourquoi ces gens-là, quand ils disent « Seigneur, en ton nom, nous avons chassé les démons, nous avons guéri les malades ». Donc, on voit bien que leur idée de Seigneur, c'est une idée religieuse. Donc, « Seigneur, en ton nom, nous avons chassé les démons, guéri les malades ». Mais le Seigneur dit « Non, si vraiment tu m'appelles Seigneur, tu dois m'obéir ». Voilà, donc c'est ça qu'il nous fait remarquer. Donc, le mot « Seigneur » veut dire « maître, chef », donc personne de qui dépend l'avenir de la personne qu'il appelle « maître, chef ». Et de cela doit se manifester par une attitude où on est à l'écoute de ce que veut le maître pour obéir. C'est ça qui fera vraiment qu'il est notre Seigneur. Et puis, il y a un autre mot, le mot « synagogue ». Synagogue, c'est un bâtiment, un endroit qui réunissait, où les Juifs se réunissaient pour faire certaines prières et discuter de la parole de Dieu. Quand est-ce que commencent les synagogues? Les synagogues commencent quand il y a eu la déportation des Juifs à Babylone. Donc le temple avait été détruit. Et ils se sont retrouvés à l'étranger, sans le temple, et loin d'Israël. Alors, ils ont fait ce sorte de bâtiment où ils pouvaient se réunir. D'ailleurs, en hébreu, synagogue veut dire lieu de rassemblement. Ça ne veut pas dire lieu de prière. Ça veut dire lieu de rassemblement. Et donc, ils réglaient beaucoup de problèmes dans la synagogue. Et avec le temps, c'est devenu un lieu exclusivement où on parle des choses de Dieu. Et avec le temps, il y a un culte qui s'est installé dans la synagogue. Or, la synagogue, au début, ce n'était pas un culte. La synagogue, c'était, on vient, on se retrouve là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un passage à lire? Il lit le passage et on en discute. Les hommes, on se rappelle de l'instruction de Paul, que celle qui veut intervenir, qu'elle demande l'explication à son mari. Donc, les hommes discutent de ce que la personne a lu. Et comme en général chez les Juifs, ça finit en queue de poisson. Il y a quelques groupes, les gens, chacun garde sa position. Et puis, mais au moins, on a entendu la parole de Dieu. Mais comme ils se retrouvaient aussi à l'étranger, ils avaient besoin de ce rassemblement pour prier. Ils avaient besoin de ce rassemblement pour se fortifier entre Juifs. Voilà, donc c'est comme ça que les synagogues commencent. Ça a commencé à l'étranger et puis c'est revenu en Israël, puisque, comme nous venons de le dire, le temple a été détruit. Donc, même ceux qui étaient en Israël n'avaient plus le temple. Et ils se sont dit, bon, pourquoi pas faire aussi des synagogues en Israël. Oui.
Je comprends effectivement que quand le temple a été détruit, il y a eu des synagogues. Mais quand on lit dans la Bible, au temps de Jésus, il y avait aussi des synagogues.
Mais déjà, voilà. Donc, le temple a été détruit, les synagogues ont été bâties. Voilà. Mais après, le temple a été reconstruit.
Oui.
Voilà, donc les synagogues ont continué. D'accord. Parce que les Juifs étaient déjà à l'étranger. Les Juifs, donc puisque le temple se trouve à Jérusalem, oui. Mais quelqu'un qui est à Capharnaüm, oui. Quelqu'un qui est à Bethsaïda, tous ces gens-là, malgré le fait que le temple a été reconstruit, ben, les synagogues ont continué à exister, parce qu'elles existaient déjà, donc comme lieu de rassemblement. Mais le grand problème avec la synagogue, c'est ce qu'on vient de dire, c'est qu'après, il y a eu un culte. Donc aujourd'hui, si vous allez dans une synagogue, c'est comme un temple catholique. Donc avec un culte, avec un système vraiment bien prévu, calculé à l'avance, une façon de faire bien millimétrée, chronométrée. Et c'est devenu un culte
qui a remplacé le véritable culte du Dieu vivant. Parce que le culte de Dieu ne pouvait pas se faire sans sacrifice. Donc vous vous souvenez de l'Ancien Testament. Donc le culte ne pouvait pas se faire sans sacrifice. Or dans les synagogues, il n'y a pas de sacrifice. Mais c'est devenu une sorte de culte. Or le culte de l'Éternel sans sacrifice, ça ne compte pas. Donc ils ont trouvé des formules de remplacement en disant les prières, des choses comme ça, l'aumône. Et à la longue, c'est devenu un système. C'est la synagogue qui inspire le catholicisme. C'est la synagogue qui inspire beaucoup de choses qui peuvent se faire aujourd'hui dans les églises, parce que c'est un système de culte qui n'est pas à 100% le culte de l'Éternel. Donc les hommes ont fabriqué quelque chose pour se consoler de l'absence du temple et bâtir aussi quelque part leur propre religion. Mais puisqu'on va après la lettre S, ça sera la lettre T, on parlera du temple. Malgré le fait que le temple a été reconstruit, les synagogues ont continué, et surtout à l'étranger. Donc quand Paul voyageait, vous vous souvenez, quand Jésus entre dans Luc 4 dans la synagogue, on lui donne le rouleau, il lit, après il y a eu débat. C'est comme ça que ça se passait dans la synagogue. Tu entres, on dit, ah mais il y a un étranger qui nous visite, on lui donne l'avantage, il lit la parole, mais dès qu'il lit la parole, les autres interviennent pour dire, ah moi je ne suis pas d'accord, mais il est écrit aussi ça, 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 ça. Et on voit bien que Jésus à la fin, il a dit, mais voilà, vous allez dire que fais dans ton pays ce que on entend faire ailleurs, mais Jésus leur dit, un prophète n'est jamais accepté chez lui. Voilà, oui.
Oui, je veux revenir sur le mot Seigneur. Quand Jésus rencontre Paul sur le chemin de Damas, Paul lui dit, Seigneur, qui es-tu? Est-ce que dans ce cas, il n'est pas conscient d'abord de la seigneurie de Dieu, puisqu'il dit, qui es-tu? Alors qu'il s'agit du Seigneur Jésus, mais lui, donc, il n'est pas encore conscient de cela. Puis il dit, qui es-tu, Seigneur?
Voilà, donc il est conscient, voilà, il ne sait pas que c'est Jésus, mais il est conscient que c'est une dimension très élevée. C'est pourquoi il appelle Seigneur directement. Mais Paul, en bon juif, s'il a appelé Seigneur, il pensait vraiment, je crois qu'il y avait une confusion dans sa tête. Il lui attribuait le titre qu'eux-mêmes, ils attribuaient à Dieu, mais tout en sachant, pas, puisque tu ne te comprends pas, moi je viens travailler pour toi, pourquoi tu me tapes? Voilà, donc il a eu une sorte de confusion. Il a appelé Seigneur, mais tout en disant, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Voilà, qui es-tu? Voilà, je crois qu'il y a eu une confusion dans Paul. En même temps, il était conscient que ça ne peut être que Dieu, mais comment Dieu pouvait le taper, lui qui est en train d'aller le servir? Bon, donc c'est cette confusion-là, il dit, mais qui es-tu? Tout en disant, Seigneur. Voilà, donc, en disant Seigneur, il lui a donné quand même le titre qu'eux, ils donnaient à Dieu. Donc ça montre qu'il a réalisé que c'était Dieu qui était en face, mais il voulait comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Qui es-tu? Voilà. Donc quand on lit maintenant le Nouveau Testament, à la fin, notamment dans l'Apocalypse, la synagogue prend une connotation négative. Donc ça prend la connotation résistance à Dieu. Parce que vous vous souvenez, Jésus prêche dans la synagogue, résistance, il s'en va. L'apôtre Paul a fait des tours de synagogue. Donc quand vous lisez les actes des apôtres et les autres épîtres, il a fait des tours de synagogue, ça finissait toujours par ce qu'on le chasse. Voilà, donc à un moment donné, il a dit, bon, je vais me tourner vers les païens. Et dans actes des apôtres, à la fin, on nous dit qu'il a loué une maison à lui, à Rome, où il recevait les gens et il parlait de la parole de Dieu. L'apôtre Paul n'a jamais réussi à transformer une synagogue en quelque chose de Dieu. Donc à chaque fois, on l'a chassé. Donc c'est pourquoi dans le livre d'Apocalypse, la synagogue prend une connotation négative. Mais donc à l'origine, ce n'est pas négatif, c'est un lieu de rassemblement. Peu à peu, ça devient un lieu d'étude biblique. Peu à peu, ça devient un lieu d'étude biblique et de prière. Ensuite, il y a tout un culte qui s'installe là-bas. Donc, et finalement, ça devient comme un lieu de résistance à la volonté divine qui s'est manifestée par l'envoi de Jésus sur la terre. Donc, c'est pourquoi dans Apocalypse au chapitre 3, Hein, il est écrit, je ferai que ceux qui sont de la synagogue de Satan viennent se prosterner, ceux qui se disent des juifs viennent se prosterner devant toi et reconnaître que je t'ai aimé. Donc la synagogue prend une connotation négative. Et aujourd'hui encore, il y a des synagogues. Donc cette affaire-là s'est pérennisée. Aujourd'hui encore, il y a des synagogues. Et c'est ce culte-là qui tient les juifs, le culte des synagogues. Donc dans chaque synagogue, il y a une sorte de maître, de rabbi. Eux, ils appellent ça aujourd'hui rav. Donc il y a un rav. Donc chaque juif a son rav. En fait, si vous parlez avec un juif, il ne va pas vous parler de Dieu, il va vous parler de son rav, de son rabbin. Donc c'est lui qui est comme une sorte de Dieu pour lui, sans dire qu'il est Dieu. Mais c'est le rav qui résout tout. C'est le rav qui résout tout. C'est le rav qu'il faut écouter, c'est lui qui donne les idées pour l'avenir. Voilà, donc chaque juif a son rav. Et ils ont fait un système de sorte que on n'a pas le droit en tant que rabbin de critiquer un autre rabbin tant qu'il est vivant. Donc pour critiquer un autre rabbin, il faut qu'il meure d'abord, ensuite on peut le critiquer. Ce qui fait qu'ils sont tout puissants, puisqu'ils ne peuvent pas vraiment se nuire, se critiquer, ils deviennent tout puissants, chacun fait ce qu'il veut, et ils ne peuvent pas se combattre. Et c'est comme ça qu'ils tiennent le peuple, pas tout le peuple juif, mais oui, d'une manière spirituelle, non d'une manière quantitative, parce que la majorité des juifs n'est pas religieuse aujourd'hui, mais oui d'une manière spirituelle, parce que dans le pays Israël, aujourd'hui, tu ne peux te marier que, si tu es juif, tu ne peux te marier que chez le rabbin. Donc quelque part, ils tiennent même les païens, les non-croyants. Donc et beaucoup de choses se passent là-bas. Ils ont des avantages, donc ils tiennent le pays quand même. Oui.
Est-ce qu'on pourrait dire aussi que le mot Seigneur ou le nom Seigneur était utilisé comme un signe de respect devant ceux qui sont supérieurs? Parce que on voit le cas de Jacob qui, pour obtenir le pardon de son frère Ésaü, utilisait le nom de Seigneur.
Oui, oui. Voilà, d'accord. Donc, synagogue, aujourd'hui, nous... Oui?
Oui, en fait, c'est pour dire la même chose que le frère Jean. Hein. Si on prend l'exemple de Gédéon, il avait dit la même chose aussi. Lorsque l'ange du Seigneur lui était apparu, donc il avait employé le mot Seigneur. Parce que l'ange lui a dit, l'Éternel est avec toi. Mais après, il pose la question à l'ange en question en disant Seigneur. Donc, je rejoins ce que vient de dire le frère Jean. Hein.
Oui, oui.
Ce n'est pas... forcément une reconnaissance de Dieu dans cette expression, mais plutôt d'une position relativement supérieure, c'est ce que je veux dire. Quoi.
Ah oui, mais on l'avait dit au début de notre intervention, que d'ailleurs, ça veut dire même monsieur. Mm-hmm. Donc on peut appeler quelqu'un, en Israël aujourd'hui on appelle le monsieur Adoni, donc seigneur. Donc d'accord. C'est un marque de respect. Voilà. Okay. Mais après, quand c'est avec le majuscule, c'est Dieu lui-même. Et après synagogue, il y a le mot tabernacle. On est obligé d'en parler avec le mot temple. Parce que tabernacle, c'est le temple en tissu. Donc quand ils sortent d'Égypte, ils font. Dieu dit à Moïse de faire un tabernacle. Un lieu, on appelle ça aussi la tente d'assignation et la tente du témoignage. Donc c'est une tente avec deux parties, une partie qu'on appelle le lieu saint et une partie qu'on appelle le lieu très saint. Et l'extérieur, c'était le parvis, donc là où le peuple pouvait venir. Mais dans le lieu très saint, c'était juste les sacrificateurs. Dans le lieu saint, juste les sacrificateurs, et dans le lieu très saint, juste le souverain sacrificateur, une fois par an. Une fois par an, il entrait le jour du Yom Kippour. Donc le jour du Yom Kippour, le grand jour du pardon, il entrait dans le lieu très saint. Donc on se souvient maintenant qu'à un moment, David a dit « Je veux construire... » comment dire ?« Moi, je viens de finir ma belle maison, solide en pierre, mais l'Éternel habite dans une tente. » C'est David qui a eu ce souci-là de construire un temple en pierre et en bois. Mais avant, c'était le tabernacle et c'était, on pouvait plier ça et aller monter ça dans un autre endroit. C'est ce qui se passait comme ils étaient en pérégrination. Donc, ils pliaient ça et ils allaient monter ça dans un autre endroit. Et ce tabernacle nous montre la logique aussi de l'ancienne alliance. Donc ça nous montre que l'homme n'avait pas vraiment accès à Dieu, et puisque dans le lieu très saint se trouvait l'arche de l'alliance qui symbolisait la présence de Dieu, et seul le souverain sacrificateur avait droit à entrer dans ce lieu très saint, dans la présence de Dieu, et une fois par an. Et par la suite, quand le temple a été construit, le même système a été refait avec un voile très haut qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et les Écritures nous disent que le jour où Jésus-Christ a été crucifié, au moment où il a été crucifié, le voile a été déchiré de haut en bas, pour symboliser que ce n'est pas un homme qui a déchiré ça de bas en haut, mais c'est de haut en bas, pour symboliser, pour montrer que c'est Dieu lui-même qui a déchiré, qui a rendu possible l'accès à lui par la crucifixion de Jésus. Donc ce sont des notions à savoir pour bien mesurer ce que Jésus a fait pour nous. Donc quelque chose qui était inaccessible pour nous, Jésus a rendu la présence de Dieu accessible pour nous à travers le voile. Donc, son corps qui a été déchiré, son corps a été déchiré, le voile a été déchiré. Maintenant, on peut par la prière, à cause du sang de Jésus, parler face à face à Dieu lui-même. Donc, parler face à face à Dieu lui-même. Et c'est extraordinaire. Mais je voulais souligner le fait que il y a eu un problème pendant longtemps en Israël. Ça aussi, c'est la thèse de certains pasteurs. Parce qu'ils en ont fait des livres. Il y a eu un problème, c'est que l'arche, lors d'une guerre, l'arche avait été prise. On ne savait plus où se trouvait l'arche. Donc, quelque part, après ce temps-là, le culte d'Israël était comme faux, parce que l'arche n'était plus là. Donc, ça, c'est une information juste que je donne. Donc, lors d'une guerre, je crois la guerre avec Shishak, donc le roi égyptien, eh bien, il n'y a plus, l'arche avait disparu. Et pendant, en quelque sorte, des années et des siècles, les Juifs ont fait des cultes sans l'arche. Donc, ça a été comme une sorte de mensonge. Mais c'est ce qui s'est passé, puisque l'arche, puisque la cérémonie du Yom Kippour devait se faire autour de l'arche. Mais l'arche n'était plus là. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, il y a des gens, il y a dans Ézéchiel 40 et d'autres passages, il est dit qu'il y aura, selon les interprétations, un temple qui va être reconstruit. Mais non pas pour nous ramener au temple, mais ça sera pour certains frères qui ont interprété cela, un moyen pour les Juifs de revenir à la notion du sang pour après comprendre la logique que Jésus-Christ a versé son sang à la croix. Parce que les Juifs ont perdu la notion du sang dans leur culte. Ils ont perdu la notion de tout ce que nous voyons dans le temple. Maintenant, à cause de ça, ils ne peuvent pas non plus bien comprendre Jésus. Parce que Jésus, quand on l'étudie, on comprend que Jésus est un culte de l'Ancien Testament parfait. Voilà, Jésus, c'est le culte parfait. Alors qu'avant, c'était un agneau animal, Jésus, c'est l'agneau de Dieu. Alors qu'avant, c'était un tabernacle de tissu ou un temple de pierre, Jésus va faire ça dans le tabernacle céleste. En tant que souverain sacrificateur, c'est ce que le livre d'Hébreu nous explique. Donc Jésus est un culte de l'Ancien Testament parfait. Alors, beaucoup disent, mais comment les Juifs vont chercher à comprendre Jésus s'ils ne reviennent déjà pas dans la logique de leur ancien culte? C'est pourquoi certains supposent que les prophéties d'Ézéchiel sur le temple à venir vont s'accomplir, non pas pour nous ramener tous à prier dans ce temple-là, mais pour réveiller les Juifs sur leur ancien culte. C'est ça qui va faire qu'ils comprennent qui est Jésus clairement. Donc voilà. Mais aujourd'hui, nous savons, selon 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 6, 19, 1 Corinthiens 3, 16, que le temple, c'est le chrétien. Donc le temple du Saint-Esprit, Dieu habite maintenant dans celui qui croit en Jésus. Donc il devient le temple du Saint-Esprit. Et dans une certaine mesure, on appelle aussi l'ensemble des enfants de Dieu le temple, donc une maison spirituelle. Donc là, c'est ce que l'apôtre Paul, Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 2. Donc on devient comme une maison spirituelle, un temple ensemble. Mais cependant, ce qui est clair, c'est que c'est le chrétien qui devient le lieu d'habitation de Dieu lui-même. C'est lui qui est le temple. C'est pourquoi le Seigneur dit, si vous détruisez le temple, vous détruisez le corps, vous détruisez le temple. Donc le corps a son importance. Parce que quand les gens disent, mais ce n'est que le corps. Non, ce n'est pas que le corps. Ce corps-là est le temple du Saint-Esprit. Voilà. C'est le temple du Saint-Esprit. Et le Seigneur veut que ce corps-là soit bien traité, puisque c'est le temple du Saint-Esprit. Et donc, quand on prend des substances qui détruisent ce corps, c'est quelque chose qui fait mal à Dieu, parce que c'est son temple, et il veut que le corps soit respecté. Donc aujourd'hui, voilà ce que le temple, c'est le chrétien. Alors, donc d'où on doit prendre conscience que le culte se fait en nous. Parce que quand on a l'image du culte qui se faisait dans l'Ancien Testament, quelle importance le temple occupait. Donc tout le monde quittait la Galilée, la Samarie, le monde entier. On se souvient le jour de la Pentecôte, il y avait les Juifs du monde entier qui étaient là parce qu'il fallait être au temple. Donc le temple avait une grande importance, considéré comme le lieu d'habitation de Dieu. Mais aujourd'hui, on dit, la Bible dit, il est écrit que c'est le chrétien qui est le temple du Saint-Esprit. Donc quand on pense à ça, on voit la valeur que peut avoir aux yeux de Dieu un enfant de Dieu. C'est son temple. Donc il habite dedans. Il dit même dans Apocalypse, je frappe celui qui ouvre, j'entre, je soupe avec lui et lui avec moi. Voilà, donc c'est devenu le lieu d'habitation de Dieu. Et c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Ça fait qu'on ne doit pas se négliger. Chacun doit se prendre au sérieux. Il est le temple de Dieu. C'est important. Il ne doit pas se laisser aller. Il ne doit pas se négliger. C'est important que le culte de Dieu se fasse en nous. Oui.
Est-ce que ça peut faire partie des raisons pour lesquelles on ne doit pas brûler, accepter quand quelqu'un meurt, on brûle son corps ou donner ses organes, parce qu'on fait le temple.
Bon, par rapport à brûler, c'est beaucoup plus lié à la résurrection. Donc il est écrit dans 1 Corinthiens 15, le corps est semé. Donc le Seigneur appelle à ce qu'on sème notre corps. Or, lorsqu'on incinère, on ne sème pas le corps. Donc le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Et dans l'Ancien Testament, quand on brûlait un corps, c'était une malédiction. C'était pas quelque chose de bien. C'est quand les gens étaient maudits qu'on brûlait, hein, notamment dans l'exemple d'Acan. Donc on brûlait leur corps. Mais la logique d'incinération vient des religions orientales, bouddhiques, hindouistes, qui, et les gens ont pris ça dans un souci économique de place, et puis dans une logique, la logique suivante, mais le corps est mort, c'est mort. À quoi ça sert qu'on fasse un bon tombeau, quoi que ce soit? C'est mort, c'est fini. On n'a qu'à brûler ça et puis mettre dans une urne. Mais c'est une logique économique et puis une logique cartésienne qui ne tient pas face à Dieu, qui donne une grande importance au corps de l'homme.
Oui, pasteur, lorsque tu dis qu'il ne faut pas se négliger, c'est dans le sens hygiénique ou bien c'est dans le sens visuel?
Non, c'est dans le sens que je peux pécher, c'est pas grave, ou bien Dieu ne m'aime pas, je peux toujours mener une vie de telle manière, ou bien il n'y a pas beaucoup de monde, l'adoration n'est pas bonne, il y a des gens qui disent mais le culte était froid. Mais c'est eux-mêmes qui sont le temple. Donc, il oublie que c'est lui qui est le temple, que Dieu doit faire son culte en lui. Et lui, il se repose sur l'ambiance collective. Voilà. Donc, or, c'est lui qui est le temple. En fait, c'est lui qui doit avoir une communion de sorte que Dieu fasse son culte en lui. Voilà, c'est dans ce sens-là. Et il y a des gens qui dépendent de l'ambiance générale. Voilà, c'est... Or, nous sommes chacun le temple du Saint-Esprit. Et puis, il y a le mot testament. Le mot testament, il y a l'usage courant que nous connaissons, c'est les dernières recommandations de quelqu'un qui meurt. Mais ça, en grec, ça veut dire aussi alliance. Donc, un contrat que l'on signe. Et dans le sens de la Bible, ça a les deux sens parce qu'à chaque fois, notre frère Paul explique ça dans Hébreu, que ce soit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, il y a toujours eu un sacrifice donc, qui symbolise la mort pour parler de testament. Et le sens pratique, c'est alliance, le contrat. Donc il y a eu une première alliance entre Dieu et le peuple hébreu. Alliance qui tourne autour de la loi. Dieu donne une loi, il dit si vous pratiquez ça, si vous remplissez votre part du contrat, moi je vous protège. Je vous donne la pluie, je vous donne la victoire sur les ennemis et je vous déclare juste. Voilà, c'est ça la première alliance. C'est pourquoi nous devons faire attention dans nos terminologies. Quand nous disons Ancien Testament, c'est vrai que c'est devenu un mot qu'on emploie couramment. On devait dire ancienne alliance. Pourquoi? Parce que tout ce que nous avons là, c'est les Écritures. Mais qu'on le veuille ou pas, quand on dit Ancien Testament, on a tendance à penser que c'est les Écritures d'avant. Non, pour un chrétien, il n'y a pas des Écritures d'avant. Tout est Écriture pour le chrétien. Donc en réalité, lorsque nous disons Ancien Testament, nous ne devons pas penser à la première partie de la Bible. Nous devons penser à ce que je viens de dire là, donc là, le système, le contrat qui régissait la relation entre Dieu et son peuple, les Juifs. C'est ce contrat-là qui est l'Ancien Testament, mais il se fait que justement c'est dans la première partie, c'est décrit dans la première partie de la Bible, c'est vécu dans la première partie de la Bible, mais toute la Bible, c'est les Écritures. Donc c'est cette confusion qui amène certains problèmes dans les milieux chrétiens où finalement dès qu'on va prendre un verset de l'Ancien Testament, ah mais ça c'est l'Ancien Testament. Ah non, c'est les Écritures, l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 3:16 que toute Écriture est inspirée de Dieu. Est inspirée de Dieu, elle est utile donc pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. Donc c'est vraiment tout ça, c'est les Écritures. Donc, quand Paul parlait de l'Ancienne Alliance, il ne parlait pas d'une partie des Écritures. Il parlait du système. Le système, c'est quoi? Dieu donne une liste de lois. Voilà les lois, il faut obéir. Tu ne tueras pas, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Une liste de lois. quand tu obéis à cette liste de lois, c'est là que tu attires la faveur de Dieu sur toi, c'est là que tu es considéré juste. Mais, oui, je laisse d'abord la place à la question.
Pasteur, tu peux nous expliquer à quel moment le Saint-Esprit, disons le chrétien, devient le temple du Saint-Esprit? Est-ce que c'est au moment où la personne déjà accepte Christ avant le baptême, ou le baptême d'abord et après la personne devient le temple du Saint-Esprit?
On va lire bien... donc dans Éphésiens 1:13. Éphésiens 1:13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc quand on croit, on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, on est scellé du Saint-Esprit, on devient son temple. Et donc, on disait que voilà, il y a, on ne doit pas, quand on dit, c'est devenu l'usage, quand on parle de la première partie des Écritures, appeler ça Ancien Testament. Mais ça ne devrait pas être le cas. L'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, c'est le système. Maintenant, la Nouvelle Alliance, c'est quoi? La Nouvelle Alliance, c'est le nouveau système qui vient compléter l'ancien système et le parfaire. C'est quoi la Nouvelle Alliance? C'est que maintenant, c'est Dieu lui-même qui agit pour te rendre pur. C'est Dieu lui-même qui agit pour te donner la force de l'aimer. C'est lui-même qui agit, alors que dans l'ancienne alliance, on te présentait une loi. On dit, toi, obéis. Toi, fais ceci. Moi, je vais être gentil avec toi. Moi, je vais te protéger. Moi, je vais t'appeler juste. Mais dans la nouvelle alliance, c'est Dieu lui-même qui est la source de tout. Il te nettoie, il te purifie, il te donne la force. Et une autre mauvaise idée que les gens ont, un autre préjugé que nous avons, beaucoup de gens ont, c'est qu'ils pensent que c'est les gens du Nouveau Testament qui ont parlé de la Nouvelle Alliance. Ah, pas du tout. Tout se trouve dans les Écritures, dans la première partie, là où on pense, ce qu'on dit, on appelle aujourd'hui Ancien Testament. Tout est là-bas, on va lire dans Jérémie 31. Ce n'est pas les gens du Nouveau Testament qui ont créé la logique de la Nouvelle Alliance. Dans Jérémie 31, à partir du verset 31, donc c'est facile à mémoriser. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père. Et c'est précisé, hein. Donc c'est expliqué en même temps. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, donc par la loi, alliance qu'ils ont violée. Quoique je sois leur maître, dit l'Éternel, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Voilà. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. » Voilà. Le Seigneur prédit une nouvelle alliance où celui dans laquelle c'est lui qui est l'acteur principal en tout. Voilà, donc c'est lui qui est l'acteur qui pardonne les péchés, qui saisit par la main, qui donne la connaissance. Au fait, la nouvelle alliance, c'est le règne de l'Esprit. C'est Dieu qui entre dans le cœur et qui donne la connaissance. Alors que dans l'ancienne alliance, c'était un livre en dehors du corps humain qui dictait ce qu'il fallait faire. Dans la nouvelle alliance, il y a des livres, d'accord, mais il y a l'esprit qui rend ces livres-là réels dans le cœur. Donc c'est l'esprit qui communique la pensée de Dieu à partir des livres. Et cet esprit-là fait que personne ne peut fuir Dieu sous prétexte qu'il n'a pas la parole. On se souvient dans Deux Rois, l'histoire de Josias. Il n'y avait pas de parole et il faisait n'importe quoi jusqu'à ce qu'il découvre la loi, les livres de la loi. Mais dans la Nouvelle Alliance, quand quelqu'un est en Christ, l'Esprit s'occupe de lui. Donc même si il se retrouve dans des configurations où il n'y a pas la parole, l'Esprit va lui amener la parole d'une manière ou d'une autre. Soit lui amener quelqu'un, soit lui amener dans l'endroit, soit lui-même lui parler. Donc un chrétien ne sera jamais privé de la parole de Dieu, à moins que ce soit d'une manière volontaire. Mais Dieu, dans la Nouvelle Alliance, il est celui qui s'occupe de tout. Il est celui qui s'occupe de tout. Il est celui qui travaille. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est extraordinaire. C'est ce que notre frère Paul appelle un grand salut. Il dit, comment peut-on louper un si grand salut? Comment? Où Dieu, lui, il s'engage à s'occuper de toi, à te parler, à t'empêcher de pécher. L'Esprit Saint, vous savez, quand les pierres ont prêché, quand ils ont commencé leur prédication, ils ont bien expliqué ça. Ils ont dit, si vous croyez en Jésus, il vous donnera l'Esprit. Donc c'est ça la grande différence avec l'Ancien Testament, où tu avais la loi, il fallait te débrouiller pour l'appliquer. Mais Paul dit, mais quand vous croyez en Jésus, vous avez l'Esprit. Dieu vous donne l'Esprit en retour. Qui va s'occuper de vous? Qui va vous enseigner? Et l'autre frère Jean dit dans 1 Jean 2, 20, l'onction que vous avez vous enseigne. Donc, c'est ce qui fait que quand tu comprends ces choses-là, tu ne cherches pas à t'imposer. Tu dis la parole et tu laisses l'Esprit imposer la parole. C'est tout. Tu ne cherches pas à t'imposer. Quand tu es prédicateur, quand tu viens exhorter avec la parole, tu dis la parole et tu laisses l'Esprit convaincre. Parce que nous sommes dans le règne de l'Esprit, de la Nouvelle Alliance, l'Esprit Saint. 1 Jean 2, 20, l'onction que vous avez vous enseigne, l'Esprit qui est en vous vous enseigne. D'ailleurs, le Seigneur a dit ça dans Jean 14. Il a dit qu'il faut que l'Esprit vienne. Quand l'Esprit viendra, il vous enseignera. Donc nous sommes, c'est ça la Nouvelle Alliance. L'Ancienne Alliance était la loi, liste de commandements à accomplir. C'est ça qui fait de toi le peuple de Dieu. C'est ça qui fait de toi le protégé de Dieu. Et c'est ça qui fait que Dieu manifeste, t'appelle juste et manifeste sa faveur à travers les bénédictions. Maintenant, dans le Nouveau Testament, il faut juste reconnaître qu'on est perdu et faible et demander l'aide de Dieu. C'est ça la différence, et lui donne l'Esprit. Voilà.
Excusez-moi, pasteur, je voudrais savoir par rapport au baptême. Faudrait-il laisser d'abord ces petits démons qu'on a tous les jours et venir, ou bien passer avant faire son baptême et l'Esprit Saint va s'occuper du reste?
Voilà.
Et je voudrais comprendre un peu ce que...
D'accord.
Ce que vous avez expliqué par rapport à deux questions qui étaient...
Donc nous allons lire un passage qui parle de ça, dans Actes des Apôtres, au chapitre 2. Acte 2. À partir du verset 37. Acte 2, à partir du verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc, quand ces gens ont entendu la parole de Dieu, ils ont été touchés pour dire, « On veut changer maintenant. On veut que notre vie soit sous contrôle de Dieu. Mais on fait quoi maintenant ?» Pierre leur dit, « Repentez-vous, c'est-à-dire demandez pardon pour vos péchés et décidez de ne plus vivre la vie ancienne et Dieu vous donnera l'Esprit. » Il le dit clairement. Il dit, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc, c'est l'Esprit qui vous soutiendra jusqu'au bout. Donc, mais il faut une prise de conscience de son péché et une décision de ne plus le faire. Et à partir de là, on peut se faire baptiser et l'Esprit s'occupe de notre avenir. Ok. Donc c'est ça la différence entre la nouvelle et l'ancienne alliance. Je recommence, c'est que ce n'est pas nous qui avons créé l'histoire de la nouvelle de l'ancienne alliance. Parce que souvent les chrétiens sont accusés d'avoir créé ça. Ce n'est pas nous, c'est dans puisque vous pouvez avoir une discussion avec les juifs qui vous disent ça, mais c'est dans Jérémie 31. Donc c'est dans les Écritures que les juifs avaient. C'est clairement dit, je ferai une nouvelle alliance. Et c'est bien expliqué, ce n'est pas l'alliance de Moïse donc quand on sortait d'Égypte. C'est une autre. C'est vraiment bien dit, clairement. D'ailleurs, les pierres ont compris ça. C'est pourquoi ils ont dit, ah, maintenant, nous sommes. C'est la promesse là que Dieu avait faite. Et c'est ce qu'il dit au verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Voilà. Donc la promesse qui avait été donnée de la nouvelle alliance, maintenant elle s'accomplit. Et vous pouvez recevoir l'Esprit qui va s'occuper de vous. C'est pourquoi aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas dire « Moi je ne suis pas prêt ». Ah non ! Puisque c'est l'Esprit qui va nous donner la force. Donc on ne peut pas dire « Je ne suis pas prêt à me donner ». Non, donc ça veut dire que tu n'es pas encore fatigué de ton péché. Si vraiment quelqu'un est fatigué de son péché, il dira, Seigneur, je suis fatigué, je n'en veux plus, pardonne-moi et change-moi. Donc on ne peut pas remettre au lendemain. C'est quand on entend la parole de Dieu, on est touché, on comprend que notre vie est perdue, on comprend qu'on a été trop longtemps dans l'esclavage du diable, donc on se dit, non, ça doit s'arrêter là, ça doit s'arrêter. Et le diable vient te dire, mais oui, mais tu retomberas. C'est là qu'on lui répond, non, c'est le Saint-Esprit qui va faire l'affaire. C'est lui qui me donnera la victoire. Donc c'est ça qui manque parfois à certaines personnes qui se disent, mais je retomberai. Non, 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 le Saint-Esprit donne la force. Donc si le Saint-Esprit a fait ça avec Zachée, il peut faire ça avec tout le monde. Donc il peut te donner la force de vaincre le péché totalement. D'ailleurs, c'est ce que Pierre dit, c'est ça la promesse qui avait été faite. Donc c'est ça. Par abus de langage, on appelle la première partie des Écritures Ancien Testament, mais ce n'est pas comme ça qu'on devrait dire. C'est les Écritures tout simplement. C'est les Écritures. Voilà. Et l'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Alliance, l'Ancien Système de fonctionnement entre Dieu et les hommes, entre Dieu et son peuple, les Juifs, à travers la loi. La nouvelle alliance, c'est le nouveau fonctionnement par Jésus-Christ à travers l'Esprit Saint. Voilà. Et la parole de Dieu. Et toutes les Écritures sont importantes. Lues, bien sûr, en esprit et dans la complémentarité de toutes les Écritures. Voilà. Donc, il y a les parties difficiles sont expliquées par les parties simples. Voilà, c'est comme ça que nous lisons les Écritures. Il y a aussi le mot vie. Non, plutôt tentation. Tentation. La tentation, c'est quand on est incité au mal, on est poussé à faire le mal. Et d'emblée, nous lisons Jacques 1 qui nous dit ceci. Jacques 1. À partir verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Voilà, donc la tentation peut venir de notre propre convoitise, ça peut venir aussi du diable. Donc il est appelé aussi le tentateur. Donc il tente, et notre propre convoitise aussi peut être la source de la tentation. Et il est clairement dit que Dieu ne tente pas. Maintenant, Dieu peut nous envoyer des épreuves. Donc les épreuves sont des situations difficiles. Ce ne sont pas des incitations au péché. C'est des situations difficiles censées nous augmenter la foi à travers la persévérance. Donc c'est ce qui est écrit au verset 2 du même chapitre. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Voilà, donc les épreuves sont voulues par Dieu, provoquées par Dieu, c'est des situations difficiles, qui, à travers la patience, vont nous faire grandir afin que nous devenions parfaits comme le Seigneur lui-même est parfait. Cependant, on dira, mais oui, mais Dieu, puisqu'il est tout puissant, pourquoi il n'arrête pas la tentation? Eh bien, le Seigneur a ses raisons. Une des raisons, c'est que le mal est dans le monde. Si Dieu a arrêté le mal, ça veut dire que c'est la fin du monde. On est au paradis. Donc il y a un processus de solution de tout ça qui passe par le fait que la tentation soit permise. Voilà. Donc c'est cela. Maintenant, on peut aussi dire que du moment que Dieu permet la tentation, permet dans le sens où il laisse faire, pour nous ça devient comme une sorte d'épreuve. Voilà. Mais ce n'est pas Dieu qui a créé la tentation, mais il a laissé faire. Alors que l'épreuve, c'est Dieu qui vraiment est la source pour nous construire dans notre foi. Donc c'est ça la différence. Et nous prenons en notre mot la vie. Donc on vient de lire un verset qui nous dit que le péché engendre la mort. Donc dans la Bible, il y a les deux termes mort et vie qui reviennent souvent, mais qui n'ont pas la même signification à 100% comme on connaît aujourd'hui dans le monde. Aujourd'hui dans le monde, la mort, c'est quand tu ne respires plus. Mais dans la Bible, la mort, ce n'est pas quand tu ne respires plus. La mort, c'est quand tu n'es plus avec Dieu, parce que tes raisonnements, tes projets, ta façon de faire construit la mort finale. Voilà, ça construit la mort finale. Et à partir de là, tu es déjà considéré mort par Dieu lui-même. Parce qu'il te voit déjà mort parce que tu construis ta mort. Alors que la vie est considérée par Dieu comme un don de lui-même. Donc, puisque Dieu, en lui, il n'y a pas de mort. Il est, c'est pourquoi dans plusieurs passages, il s'appelle le vivant. Il dit, je suis vivant, dit l'Éternel. Je suis vivant, dit l'Éternel. Donc, Dieu est vivant. Et la vie, au fait, c'est que c'est le branchement avec Dieu. Quand tu es branché à lui, c'est là que tu as la vie. Et c'est une vie qui continuera éternellement. Mais déjà ici sur terre, tu es dans cette vie-là. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc on n'aura pas la vie éternelle le jour de notre mort. On a la vie éternelle maintenant. Et cette vie éternelle peut passer, et pour beaucoup, pour les Paul, pour beaucoup qui nous ont précédés, c'est passé par la mort physique. Mais ils avaient quand même déjà la vie éternelle. Et ça se manifeste par la paix, l'assurance, la joie, la foi en l'avenir. On sait que tout est sous contrôle. Voilà, c'est ce que Dieu appelle vie. C'est ce que Dieu appelle vie. Cette attitude, cet ensemble de paix, de joie, de foi, d'assurance, et sur terre et par rapport à l'éternité. Donc tu ne t'inquiètes pas du lendemain, tu es dans la vie. La vie, c'est ça. La vie, ce n'est pas respirer selon la Bible, parce que sinon, ils n'appelleraient pas les païens des gens morts. Or, sans cesse, on les appelle morts. D'ailleurs, dans Éphésiens, c'est écrit, nous étions morts par nos offenses. Nous étions morts. Donc, pour Dieu, nous étions morts. Parce que nous construisions notre mort définitive et nous ne vivions pas sa vie à lui qui nous branche à l'éternité, qui nous branche à l'assurance, qui nous branche à la foi, qui nous branche à l'amour, à la paix, à la joie. Il n'y avait pas cela. Et tôt ou tard, même si en apparence, certains païens ou certains faux chrétiens paraissent vivants, tôt ou tard, cette mort va se manifester. C'est ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse. Tu te crois vivant, mais en réalité, tu es mort. Donc, il y a des gens qui peuvent impressionner aujourd'hui. Nous voyons le président de la République, il impressionne. Mais il y a un temps, c'est Jacques Chirac qui est impressionné. Mais maintenant, quand on vous montre l'image de Jacques Chirac, vous vous dites, mais voilà, je préfère ne pas être président, mais être différent, quoi. Voilà. Parce que la mort est en train d'agir, la mort est en train de se manifester. Pourtant, celui qui a la vie éternelle, quand bien même sa chair est en train de se mourir, son esprit contient la vie et cette vie continuera éternellement. C'est différent, c'est pas la même chose. Au fait, comme c'est écrit, il a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qu'il aime. Donc on sait, quelqu'un qui meurt dans l'Éternel est en train d'entrer dans une vie parfaite, glorieuse. Et avant qu'il meure, il est déjà dans ça. Et là, par contre, ça dépend de sa foi. Soit on manifeste la foi et on vit cette vie-là de Dieu, soit on ne manifeste pas la foi et on vit comme les païens, dans la peur du lendemain, dans l'égoïsme, dans les compromis, parce qu'on n'a pas la foi. Donc là, c'est pourquoi c'est écrit dans Hébreux 10, 38, le juste vivra par la foi. Donc cette vie-là de Dieu ne se concrétise que quand on a la foi. Quand on a la foi, ça devient réel. Tu es heureux. C'est ce qui amène Zachée à donner ses biens aux pauvres, parce qu'il reçoit cette vie. À partir du moment où il reçoit cette vie, il a l'impression que il expérimente le fait que les biens de la terre ne pèsent pas lourd. Ne pèsent pas lourd par rapport à ce qu'il vient de recevoir et il s'en débarrasse. Donc cette vie, on peut l'expérimenter, mais ça demande avoir foi en Dieu. C'est ça l'exhortation que nous faisons. Donc ayons foi en Dieu, ayons foi en Dieu. Afin d'expérimenter cette vie éternelle que Dieu nous donne. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons clôturer parce que nous sommes arrivés à la lettre V. Oui.
Pasteur, quelqu'un qui n'est pas... qui est encore à son début, en fait, d'expérimenter ou bien de vouloir se faire baptiser, ou à qui on apporte la parole, qu'on évangélise et qu'on présente Christ, qui dit, mais comment savoir que j'ai la foi? Comment tu peux expliquer à une telle personne quelle est la foi que elle dit, mais je vous dirais, j'aimerais accepter Christ, mais je ne sais pas si c'est vraiment la foi. Comment savoir que j'ai la foi?
Bon, moi, quand c'est comme ça, je dis, tu le sauras, et on continue à lire la parole. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si c'est encore flou pour la personne, on continue à lire la parole. Oui.
Oui, pasteur, un chrétien qui meurt ne souffre pas dans la maladie.
Est-ce qu'un chrétien peut mourir de maladie, c'est ça la question? Oui, c'est possible qu'un chrétien... Puisque Élisée lui-même est mort d'une maladie. Élisée qui faisait beaucoup de miracles. Donc un chrétien peut mourir de maladie, oui.
Oui, mais pas en souffrant, je veux dire.
Ah si, hein, rien ne nous dit qu'il ne peut pas souffrir. Il peut souffrir aussi. Mais la différence, c'est qu'il y a la paix de Dieu dans la souffrance. La force de Dieu dans la souffrance. Okay. Comme le Seigneur souffrait à la croix, mais tout en étant en paix et dans la joie de nous sauver. Donc c'est la même chose qui se passe dans le chrétien. Il peut souffrir physiquement, mais il est assisté par Dieu pour le porter dans ça. C'est ça la différence. Il est porté et le soutenu.
Pasteur, j'ai une petite question par rapport à, aux 12 tribus d'Israël. Donc, ça n'a pas de lien direct avec ce qu'on est en train de développer ce soir. Dans Genèse 48, versets 5 à 6. Genèse 48, 5 à 6. On peut comprendre pourquoi, en fait... il y a bien ces 12 tribus-là qui incluent Manassé et Éphraïm qui sont les enfants de Joseph. Hein?
Oui.
Voilà. Et donc, les Lévites qui n'étaient pas comptés lors de la distribution. Et dans Apocalypse 7, les Lévites réapparaissent.
Et Joseph.
Voilà. Joseph, oui. Et Dan a disparu.
Voilà.
Donc, je ne sais pas si tu aurais... Entre-temps, je ne sais pas ce qui s'est passé et...
Je n'ai pas d'explication, je sais que c'est comme ça. D'accord. Donc dans Apocalypse, il y a les autres qui disparaissent, Joseph et les Lévites qu'on voit en scène. Donc moi je pense que l'ordre original est respecté, sauf que certains utilisent ça pour dire Dan. Mais Apocalypse, ça ne fait pas 12.
Apocalypse 7, je crois, hein, si je ne me trompe pas.
Non, je ne parle pas du passage, le nombre de tribus.
Le nombre, ça fait au final 12.
Ça fait 12.
Oui.
Voilà.
Parce que finalement, Dan n'était plus là. Et Dan on a inclus Lévi et Joseph, si je ne m'abuse.
On va lire ça alors, Apocalypse 7. Apocalypse 7. Verset 5. Il y a Judas, Ruben, Gad, Aser, Nephtali, Manassé, Siméon, Lévi, Issachar, Zabulon, Joseph. Et ça fait 12. Au fait, c'est l'autre Éphraïm et Dan qui ne sont pas là. Voilà. Bon. Maintenant, Éphraïm, on peut dire, son père est là, Joseph est là, ça passe. Mais il y a des gens qui utilisent ça pour dire l'Antichrist sortira par Dan. C'est la seule théorie que je connais jusque-là, puisque l'Antichrist sortira par Dan, ça a été éliminé. Voilà, donc c'est... Il y a des passages d'accord. de l'Ancien Testament qui laissent penser cela. Notamment la prophétie que Jacob fait avant de mourir. Il dit « damné comme un serpent ». Voilà. Donc, voilà. C'est...
D'accord. Merci. Et une autre question, est-ce que ça sera impropre de dire que Jésus est venu abolir la loi de Moïse?
Oui, c'est impropre, parce qu'il lui dit qu'il vient accomplir. Il lui-même il dit qu'il ne vient pas abolir. Juste déjà pour ça. Mais quand on comprend l'explication aussi des choses, on se dit que Jésus est la continuité. Donc la loi de Moïse, on comprend mieux Jésus. Quand on comprend la loi de Moïse, on se dit, tiens, Jésus ne vient pas du néant. Au fait, il est la perfection de ce que Dieu faisait déjà avant. Ce n'était pas d'accord. parfait, mais Jésus vient de... C'est ce que notre frère Jean a reconnu quand il a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc il se dit, avant, on tuait les agneaux, mais là, c'est ça le véritable agneau qui vient. En fait, ça nous permet de... La loi nous permet de mieux goûter à Jésus, de dire, mais tiens, voilà maintenant le véritable. Donc, c'est pour ce que Paul dit, la loi est l'ombre des choses à venir. Mais l'ombre n'est pas séparée du corps, c'est ensemble. Et le corps, c'est Jésus. Donc, puisque le corps et l'ombre, ça va ensemble, voilà. Donc, on ne peut pas dire que Jésus soit venu abolir, mais accomplir.
Et est-ce qu'on ne peut pas apporter une distinction entre ces deux lois, parce qu'il y a ce que l'on appelle la loi divine à travers les 10 commandements, mais il y a les ordonnances qui permettent en fait de, le déroulement du culte, etc. C'est ce que l'on appelle les lois sacrificielles. Et il est dit un peu plus loin qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Est-ce qu'il ne s'agit pas de cette loi que Moïse avait écrite de sa propre main et qu'il avait placée à côté du tabernacle, et que les 10 commandements sont toujours d'actualité, ou bien, je ne sais pas.
Non, toutes les écritures sont d'actualité. Toutes les écritures sont d'actualité, que ce soit les 10 commandements, que ce soit les lois sacrificielles. Sauf que il faut comprendre que Jésus vient accomplir ça. Du moment que Jésus vient accomplir ça, ce n'est pas que c'est mauvais, mais c'est juste que ça nous permet de mieux apprécier l'accomplissement par Jésus. On se dit, bon, ça a bien préparé la venue du Seigneur. Maintenant, c'est ce que Paul appelle le précepteur. C'est-à-dire que quand l'enfant est petit, on lui prend un professeur à la maison qui lui prépare à aller après dans la grande école. Donc la loi nous préparait maintenant à la grande école. C'est ce que le frère Paul explique dans Galates. Donc c'était le précepteur qui nous prépare à mieux apprécier Jésus quand il vient. On dit, ah! Voilà le véritable, voilà ce qu'il nous fallait, mais tout ça, nous pouvons apprécier ça que parce qu'on a connu l'ancien. Voilà. C'est un peu l'importance de toutes les écritures, parce que beaucoup de chrétiens sont entrés dans le refus parce qu'on leur a prêché que le Nouveau Testament, finalement, ils sont entrés dans la théorie de la substitution. Voilà. Donc, penser que l'Église maintenant se remplace Israël parce qu'ils se sont focalisés sur le Nouveau Testament et ils n'ont pas été enseignés sur l'Ancien pour bien comprendre la connexion et rester humble, comme l'apôtre Paul dit, il faut rester humble. Vous êtes l'olivier sauvage qu'on a greffé. Donc il y a les racines qui sont là et c'est pourquoi on a besoin d'en parler, de parler de toutes les Écritures, pas seulement du Nouveau Testament, toutes les Écritures contribue à notre connaissance et à notre croissance. Et c'est important. Oui?
Parce que je voulais bien comprendre ces versets ici. Hébreux 8, verset 13.
Est-ce que tu peux lire?
En parlant d'une alliance nouvelle, le Seigneur a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître.
Oui, donc il explique par là que l'ancienne alliance, telle que, par exemple, le frère Siméon vient de dire, parler des ordonnances sacrificielles, comment on doit faire le culte, comment on doit faire des... On ne doit plus faire comme ça, puisque Jésus est devenu notre culte. Donc là, c'est le débat. Est-ce que le juif doit continuer à faire les mêmes cérémonies qu'avant? Donc l'apôtre Paul dit, non, mais si on appelle ça ancienne, on appelle ce que nous faisons nouvelle alliance. Pourquoi on doit continuer à faire ce qu'on appelle le système de l'ancienne alliance? Donc la nouvelle donne le vrai sens et le vrai goût. C'est ce que le frère Jean dit aussi dans Jean 1, 17. La loi a été donnée à Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Puisqu'on a toute la vérité en Jésus, pourquoi retourner encore commencer à pratiquer les rites de l'Ancien Testament? Mais les rites de l'Ancien Testament nous permettent de mieux pratiquer les rites, le culte de Jésus, parce qu'on comprend maintenant, parce que quand on dit le sang, beaucoup de gens, quand nous prêchons à gauche, le sang, je dis, mais qu'est-ce que ça a à voir le sang avec Dieu? Mais quand tu connais les rites de l'Ancien Testament, tu comprends le lien entre le sang et Dieu. Et donc c'est ça, c'est important, c'est pourquoi toutes les écritures, toute écriture, c'est ce que Paul dit, toute écriture est utile. Ça permet à l'homme de Dieu de comprendre les choses complètement, sinon il aura une compréhension à moitié. Question. Voilà, donc je rappelle qu'à partir de mardi prochain, nous commençons la série L'explorateur béréen. Donc si vous avez des versets aussi très importants, mais qui ne sont pas souvent cités, des passages importants, vous pouvez aussi préparer ça. Soit vous me le donnez, soit vous le présentez en même temps. Donc on va aussi en discuter des versets qui sont souvent négligés ou qui ont des vérités importantes, mais qu'on n'a pas souvent cité dans le milieu chrétien. Voilà, donc on veut explorer toute la Bible et sortir des choses très importantes. Voilà, que Dieu soit béni, nous allons prier. Seigneur, nous prions que tu nous aides. Nous te remercions déjà, Seigneur, pour toutes ces séances sur le vocabulaire chrétien qui nous ont permis de préciser certains mots, de savoir les utiliser à bon escient. Merci Seigneur pour la force, merci pour l'inspiration, car nous sommes des instruments inutiles, Seigneur. C'est toi qui donnes par ton esprit, comme notre frère Pierre nous a dit, que lorsque nous croyons en Jésus, nous recevons l'esprit comme don. Seigneur, merci pour ton esprit qui continue à nous enseigner et qui continuera à le faire. Merci pour ta fidélité, car il est dit, Seigneur, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, que après tout ce travail sur le vocabulaire chrétien, que les mots prennent leur vrai sens dans nos vies et dans nos cœurs, afin que nous pratiquions cela et nous ayons la vie. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen.